Bonjour, heureux de vous retrouver sur nos antennes. Je suis donc aujourd'hui avec Alain Castan et Brigitte Gabirol pour notre émission traditionnelle « Ma commune est utile ». Par quoi nous allons commencer aujourd'hui à discuter, plutôt que nous ne sommes pas vus?
Bonjour à tous, donc Alain Castan. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui que l'actualité est assez chargée. Moi, j'aimerais qu'on commence déjà, pour nos communes rurales, de parler du projet du président de la République, puisque ça vient, il était en Lot-et-Garonne la semaine dernière, pour les nouvelles gendarmeries. Donc moi, la première chose que je dois dire, monsieur le président, vous allez créer 238 gendarmeries, dont certaines mobiles, donc c'est pas la même chose, après en avoir supprimé, entre vous, monsieur Sarkozy et monsieur Hollande, 500. Donc pour nous, le compte n'y est pas. Ça, c'est une évidence. Et la deuxième chose sur ces gendarmeries que moi j'aimerais dire, c'est que c'est les propos que nous rapportent les gendarmeries, c'est que c'est vrai que souvent ils interpellent des incivismes ou des bandits, il faut le dire, des gens qui ont fait des fautes, et que quelques temps après, ils les retrouvent libres dans leur propre commune ou dans leur propre circonscription. Ça veut dire aussi que la gendarmerie, elle doit être liée à la justice. Et aujourd'hui, la justice, elle remplit peut-être pas entièrement son rôle. Voilà ce que je voulais dire sur les gendarmeries et sur la sécurité.
Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Le fait qu'on ait fermé en son temps les gendarmeries, ça a fait scandale à travers le département et même en Dordogne. Et pourtant, rien n'y a fait. On les a fermées. On en a construit quelques-unes, notamment il y a une vingtaine d'années à Montpont. Et on s'est rendu compte que nos gendarmes aimaient y vivre et qu'ils avaient aussi le droit de vivre dans des bâtiments qui étaient sécurité pour eux et confortables. Je rejoins tout à fait Alain quand on pense que sur 238 gendarmeries, il y en aura 90 de fixe, ça rime pas à grand chose. Est-ce qu'on va leur donner des camping-cars quand on parle qu'elles sont mobiles? Enfin, elles servent à quoi? Au prix du gasoil et tout ça, je suis pas sûre que ça soit très rentable. En tous les cas, moi, je veux dire une chose, j'apprécie vraiment que les gendarmes soient dans notre territoire. On a besoin d'eux. On considère beaucoup les gendarmes. Pour nous qui sommes dans la ruralité, c'est la première force de l'ordre qu'elle en a droit. Par contre, je trouve que on devrait, comme a dit le collègue, plutôt essayer de voir avec la justice qui chevillent entre eux, parce qu'à un moment on donne presque plus de droits à des alors t'as parlé de voyous, non, t'as parlé de voyous, plus de voyous, d'incivilité des gens qui sont qu'aux gendarmes eux-mêmes. Dès qu'ils font quelque chose, c'est le doute. Alors je suis tentée de dire, c'est la même chose avec les maires. Donc à un moment, quand vous voyez un maire qui se fait agresser, s'il a le malheur de répondre, c'est lui qu'on va prendre en photo, comme c'est passé à un des collègues, qu'on va prendre les empreintes digitales et tout. Je trouve ça un peu scandaleux. Donc je sais bien qu'il faut des preuves pour condamner les gens, mais on pourrait au moins se rendre compte qu'on a des personnels, la police, les maires et tout ça, qui feraient partie d'une catégorie dont on ne peut pas systématiquement mettre la parole en doute.
Oui, on reviendra un petit peu sur les violences vis-à-vis des élus, mais par rapport à la déclaration de M. Macron sur ces 238 brigades supplémentaires, n'aurait pas-t-il mieux valu, dans un premier temps, renforcer un petit peu les brigades existantes, puisqu'elles sont souvent composées de moins de 10 gendarmes, et ils ne peuvent pas être 24 heures sur 24 10 gendarmes sur un territoire?
Alors c'est une vérité, tu as tout à fait raison. C'est vrai que quelque part, renforcer les brigades existantes aurait été certainement aussi une solution, mais ça peut se cumuler. On peut très bien renforcer. Et puis, alors, est-ce que ces brigades mobiles seront intégrées à celles existantes? C'est ce qu'on ne sait pas trop encore. Par contre, moi, ce que je me félicite aujourd'hui, en tant qu'élu, c'est que j'avais alerté en direct M. Darmanin et M. Dupond-Moretti dans les concertations sur les assises de la justice. C'est le rôle du procureur de la République. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a deux pouvoirs dans le département. C'est le préfet et le procureur de la République. Or, jusqu'à aujourd'hui, le procureur de la République, vu les charges qu'il a déjà et vu l'intéressement qu'il y avait, ne s'occupait pas des problèmes des élus. Aujourd'hui, je me félicite qu'à travers ce qui s'est dit entre nous, les procureurs de la République, que ce soit Mme Bellouard, qui est aujourd'hui partie, mais avec le nouveau, il y a une continuité, et puis Mme Guedes pour Bergerac, elles m'ont fait venir. On a mis en place des choses avec les élus. C'est une très bonne chose. Il y a quatre lettres qui sont parues de plus, dans le même style que le préfet. Et puis, on est en train de suivre suivre un programme sur ce qu'on appelle les TIG, les travaux d'intérêt généraux, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Plutôt que de mettre les jeunes en prison, de leur donner des travaux d'intérêt généraux, ça me paraît beaucoup plus adapté, sous la responsabilité des maires, bien sûr. Et puis beaucoup de choses qui sont mises en place, mais enfin, il y a un début de dialogue, et c'est une bonne chose. Alors, on va parler de la violence faite aux élus. Ça a le même rapport. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, c'est que quand on porte plainte auprès d'un gendarme pour une agression verbale ou physique, le dossier ne se soit pas refermé, comme souvent, et que les gens soient condamnés des violences qu'ils font, que ce soit d'ailleurs aux élus qu'aux habitants.
Je m'agite un peu dans mon coin. On parle de renforcer les brigades. OK, il faut que nos gendarmes soient logés. On ne peut pas mettre maintenant, comme on mettait autrefois, des gendarmes logés à l'extérieur. C'est plus possible, c'est plus envisageable. Donc il faut que les brigades soient de taille. Faut faire des logements supplémentaires. Et c'est ce qu'on a fait, nous, à la brigade de Montpont, pour accueillir des gendarmes supplémentaires. Sauf qu'on en avait 9. Il y en a qui partent en retraite ou qui sont mutés. Ils ne sont pas remplacés parce qu'il y a une véritable crise des vocations. Il ne faut pas se leurrer. On veut 2000 gendarmes de plus sur toute la France. C'est peanuts. Je veux dire, 2000 gendarmes, ils sont tellement occupés partout que, voilà, c'est toujours mieux que rien. Je ne veux pas non plus être négatif. Par contre, là où je m'inquiète un peu, c'était fameux TIG. On nous en propose toujours. Et moi, je dis, t'as bien dit le truc, sous la responsabilité des maires. Tu crois pas qu'on n'a pas autre chose à faire qu'à faire venir des gens travailler dans nos communes et les surveiller? Moi, j'ai pas de cantonnier où j'en ai la moitié d'un. Il va pas passer sa journée à surveiller une personne qui vient faire des travaux d'intérêt généraux. Et puis la réflexion des maires aussi, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. T'es condamné pour cambriolage, je suis désolée, t'as pas envie de les faire venir dans tes mairies. Donc à un moment, il va falloir que ça soit pas sous la responsabilité du maire, mais que ça soit sous la responsabilité, mais vraiment de la justice. À un moment donné, chacun son travail. La responsabilité des maires, ils n'ont rien trouvé de mieux. Tout est la responsabilité du maire, du gravillon, de l'église, de la salle des fêtes, de l'école, de n'importe quoi, d'un arbre qui tombe, d'une ligne téléphonique, et en plus les TIG. Bon, ben, moi j'en ai pris, mais maintenant je freine des quatre pattes.
Je vais revenir un petit peu sur effectivement la fermeture des 500 brigades au niveau national. La gendarmerie, dans le milieu rural, était très appréciée. Il y avait beaucoup de proximité. Sauf qu'aujourd'hui, comme ils sont de moins en moins nombreux, les gens sont en train de se poser des questions par rapport au fait qu'ils ont du mal à assumer leur tâche. Parce que les gendarmes, à une époque, ils faisaient beaucoup de prévention. Qu'est-ce que vous en parlez maintenant? C'est beaucoup plus difficile.
À l'école aussi, on faisait de la morale. Tu crois pas qu'on devrait recommencer? Je pense que ça a fait de mal à personne, mais ça ancre bien les choses. Ben, tout est comme ça. On a laissé faire, on a laissé, et je pense que le rôle du curé, bon, on n'en parlons pas, le rôle de l'instit, parce qu'ils sont malmenés, ça va dans le rôle du gendarme et le rôle du maire. C'est pareil. On est dans une société qui est comme ça. Il faut essayer de changer les choses. Et bon, ben, les gendarmes, c'est pareil, mais moi, je veux dire, et je tiens à le dire, et je le répète, nos gendarmes sont la première force d'intervention chez nous et on les apprécie. Moi, je ne veux pas qu'ils vous prennent au coin de la rue parce que vous roulez trop vite. Eh bien, tant pis. Vous avez essayé, vous avez perdu. Tant pis. Et on a besoin des gendarmes et pas de les décrier sans cesse.
Dernier mot sur la gendarmerie.
Le dernier mot sur la gendarmerie, je suis tout à fait d'accord avec Brigitte. Le fait que nous, les communes, c'est un des derniers liens du service public, donc il faut les conserver, tout comme les facteurs et tout comme, particularité aussi, celle qui est vraiment on a besoin dans nos communes rurales, c'est la secrétaire de mairie. Voilà ce que c'est que le service public, le vrai. Et c'est vrai que quand je vois... la disparition des services publics en masse, aujourd'hui on veut les remplacer par des maisons de France Service, ça me fait un peu, je l'ai déjà dit, ça me fait un peu sourire, parce que ces maisons France Service, c'est pour couvrir la disparition des vrais services publics. Voilà.
Tout à fait.
Donc ça fait le lien avec la prochaine question que je voulais vous poser. Il y a une quinzaine de jours, vous avez eu une réunion sur le cluster sur la ruralité qui parlait effectivement des services publics. Tu peux nous en dire un petit mot ?
Mais oui, le cluster ruralité, c'est quand même... on est la seule région qui a été mise en place par le président Alain Rousset. C'est-à-dire que c'est des...
Peux-tu préciser qu'est-ce que c'est qu'un cluster ?
Alors, un cluster, c'est un club, en définitive. Mais c'est juste une appellation un peu moderne qu'a voulu faire la région. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce cluster va pouvoir aider... aujourd'hui, il y a plus de 700 dossiers en cours pour aider les communes rurales sur des projets qui sont que ruraux. Et puis, à notre grande surprise à ce cluster, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'à l'heure du... les conseillers régionaux ont décidé et ont mis en place des aides qui sont supérieures pour le monde rural par rapport à la métropole de Bordeaux. Alors ça nous rassure, parce que ça veut dire que les choses sont en train de s'inverser. Et j'espère qu'elles vont s'inverser dans le bon sens. Et la deuxième chose, c'est que qui a été dite et que moi je dis et que je maintiens, qui a été dit par des maires, c'est que on peut dire ça suffit, quoi. Ça suffit aujourd'hui. On va avoir des aides de l'État, on va avoir des aides du département, on va avoir des aides des communautés d'agglomération, de communes, on va avoir des aides de la région, mais rien n'est mutualisé. Ce qu'on redemande, c'est ce qui se passait dans le temps, c'est qu'il y a une conférence des projets, une conférence d'explication et puis de notification des aides qu'on peut avoir, mais que tout le monde soit ensemble, c'est-à-dire région, département, commune, intercommunalité et l'Europe, bien sûr, de façon qu'une commune puisse avoir sur un projet à minima 60% d'aide et à maxima 80%, puisqu'on ne peut pas le dépasser, quoique on peut des fois le dépasser suivant l'urgence du projet. Et ça, c'est très important, parce qu'une commune aujourd'hui, si elle a 20% de la région qu'elle n'a rien d'autre, le projet n'aboutit pas. Vous pensez bien que 80% d'investissement à faire pour une commune rurale sur un projet de 300 000 euros, sur une commune de 200 habitants, c'est impossible. Donc dans le temps, quand on faisait un foyer laïque, quand on faisait une route, quand on faisait un bâtiment, une salle des fêtes, quand on faisait une école... on était assuré d'avoir pratiquement 80% d'aide. Aujourd'hui, on en est loin, on est loin du compte, et c'est ça qui ne va pas. En plus, comme je le dis souvent aussi aux ministres, les ministres proposent des décrets, les mettent en application, mais le problème de la France, c'est que l'État propose, et ce sont les préfets disposent. C'est-à-dire que vous avez des préfets, et c'est le cas en Dordogne, qui souvent refusent de l'aide. De mutualiser la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, avec la DECIL, qui est la dotation, rappelle-moi Brigitte, c'est une dotation intercommunale, alors que l'État leur a dit qu'on pouvait cumuler les deux. Mais en Dordogne, ils le font pas pour tout. Voilà. Donc.
Oui, je voulais rajouter aussi, bon, on a appris plein de choses, on peut avoir des aides européennes, on peut avoir plein de choses, sauf que l'ingénierie est très importante, puisque dans nos petites communes à nous, si par exemple il faut rendre un dossier au mois de novembre, on est pris de court, parce que c'est toujours très court. On demande des subventions, c'est toujours très court. Vous entrez dans cette catégorie, il faut le faire tout de suite. Sauf qu'on se fait toujours battre par les villes et les métropoles qui, eux, ont des services dédiés et qui ont toujours un dossier sous le coude. Nous, on n'a pas de dossier sous le coude. Quand il nous faut du temps pour faire quelque chose, on n'a pas l'ingénierie nécessaire. Et finalement, quand on se met dans les rangs, eh bien, la temporalité ne nous est pas bénéfique. Et donc, on a un énorme problème à cause de ça et il faut changer les choses.
Ça tombe bien, donc on va pouvoir faire notre petite pause musicale et puis on reprend dans 2 minutes. À tout de suite.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis.
Donc après cette petite pause musicale, nous allons continuer notre débat. Alain voulait nous dire un petit mot par rapport aux déclarations aussi de Macron par rapport aux églises.
Oui, c'est important parce que, quoi qu'on en pense, l'église, c'est quand même le patrimoine de la commune. Il fait partie, avec la mairie et l'école, du patrimoine de la commune. Donc c'est important et les gens tiennent à garder leurs églises. Mais Gauthier Mornas, qui est un prêtre qui est chargé par le gouvernement de s'occuper de la... justement du patrimoine religieux. Et bien sûr, ils se sont rendus compte qu'il va rester pas mal d'argent après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et cet argent, il va être mis, et je crois que c'est une bonne chose, il va être mis à la disposition des 42 000 églises et chapelles qui existent en France, dans le monde rural, avec 10 500 édifices religieux qui menacent de... qui ont besoin d'une rénovation. Et donc cet argent sera prévu pour ça. Donc c'est ce que je voulais dire à mes collègues maires, puisque là je vais parler surtout aux maires et puis peut-être aux gens pour qu'ils incitent leurs maires à faire les demandes. C'est quand vous avez une église qui est en mauvais état dans votre commune rurale, et bien aujourd'hui il va y avoir des aides pour pouvoir revoir cette église et certainement la rénover. Voilà. C'est tout simple. C'est un appel que je lance. C'est une idée qui est très bien. Et puis en plus, le clin d'œil, c'est que le prêtre qui s'occupe de ça étant de la Dordogne, profitons-en parce qu'il va être à l'écoute et certainement, qu'on va avoir un petit avantage.
Tu veux dire, oui, qu'on aura un avantage parce que c'est le Périgord en avant. Oui, je voulais dire aussi, tout à l'heure, tu parlais de DETR. Ben là, peut-être on peut avoir des aides pour les églises. DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce qu'il a dit. Par contre, la DESIL, c'est la dotation du soutien à l'investissement local. Et ça rentre tout à fait dans l'église. Vous dites. Voilà, je voulais quand même préciser.
Bon, tu voulais dire aussi un mot, parce qu'il y a 2-3 jours, vous avez eu le congrès des maires ruraux à Alpes d'Huez, on en a entendu un petit peu parler. Il y en a qui ont fait... oui, parce qu'il y en a qui ont utilisé la tribune de la MRF pour faire connaître un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est dit à ce congrès ?
Alors, la première chose que je vais dire, quand même, parce que c'est l'Alpes d'Huez, c'est impressionnant. Et c'est vrai que moi qui ai fait un peu de vélo, on a quelques maires qui ont monté l'Alpes d'Huez avec l'écharpe autour du cou, en plus, parce que c'était symbolique. Je peux vous dire que c'est une sacrée montée. Et on n'a pas l'impression, quand on le voit à la télé autour de France, qu'il y ait une montée aussi vertigineuse sur une vingtaine de kilomètres. Vraiment, c'est un beau site. Et bon, le congrès s'est passé sur ce site-là, on a été très bien reçus par les élus de l'Isère. Mais ce congrès, ça a été aussi beaucoup de travail sur le samedi et le dimanche matin. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Alors on a fait, je l'avais dit, je suis le seul maire, moi, à avoir participé au grand atelier de la transition écologique où il y avait 100 maires ruraux qui avaient été choisis par la MRF pour travailler sur tout l'ensemble de la transition écologique, que ce soit les énergies renouvelables, la biodiversité, la forêt, l'eau, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que nous avons rendu la copie de ça au ministre Béchu, qui est le ministre de l'écologie, Et c'est vrai qu'il a eu ce terme en voyant les travaux. Il y a une centaine de pages de collecter, que c'est un travail époustouflant. Mais bon, maintenant, il faut se mettre au travail. Et il faut que messieurs les préfets de tous les départements puissent inclure les positions que nous avons dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, parce que ce qui a été surprenant et qu'on a appris de la part du patron de RTE, l'organisme d'EDF qui s'occupe de la production de l'électricité, si on n'accélère pas les énergies renouvelables, on va avoir certainement des coupures dans les années 2025-2030, parce que le nucléaire, malgré qu'il y ait une accélération pour le nucléaire, on aura besoin de beaucoup plus d'électricité, puisqu'elle va doubler d'ici 2035, la consommation d'électricité, et ce, malgré que les gens font beaucoup d'économies et font attention à comment ils dépensent leur électricité, mais la consommation va doubler. Donc voilà, on a parlé beaucoup de ça. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis intervenu pendant ces travaux où j'ai... Alors, c'est pas moi qui ai été applaudi, mais j'ai été applaudi sur ce que j'ai dit, et j'ai mis en avant l'avance qu'on avait en Dordogne sur les énergies renouvelables grâce au syndicat des énergies de la Dordogne, où le président Philippe Dussen a accompagné de ses 15 vice-présidents font un travail, et le personnel bien sûr, font un travail énorme sur les énergies renouvelables à travers la CEM24, qui aujourd'hui propose des projets, mais comme je l'ai répété, c'est ça qui a plu. Nous voulons des projets à taille humaine, parce que de voir ces marchands de rêves qui arrivent pour mettre des 20, 30 hectares de photovoltaïque, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que souvent c'est tronqué, et puis que les communes ne retrouvent pas ce qu'elles ont envie de vivre justement dans cette géographie des énergies renouvelables. Et de plus, moi j'étais intervenu pour ça, on redemande à travers la transition écologique que soient revues les attributions des ce qu'on appelle les IFER, c'est un petit peu la prime qui est versée par ceux qui font les énergies renouvelables aux communes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 50% est partagé entre le département et puis la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Nous, les communes, on revendique, étant donné qu'on amène un projet, 50% de ses revenus, et après que le reste se partage, mais sans oublier aussi, ça, chose que l'État a oublié, c'est qu'il y a beaucoup de communes environnantes qui sont impactées, ce qu'on appelle les effets collatéraux, qui sont impactées par ces énergies renouvelables, et elles aussi ont droit à quelque chose. Voilà.
Oui. Ben moi, je suis tout à fait d'accord pour que les IFER soient redistribués à 50% pour la commune, ce qui me semble tout à fait normal. Par contre, je l'ai déjà dit, dans ce grand atelier, on parle de méthanisation, d'éolien, de solaire. Moi, j'ai soulevé le problème des marées motrices, puisqu'on a 2900 km de côte en France. Donc, plutôt que de nous mettre des éoliennes partout et n'importe où, et contre la volonté souvent de la population et des élus, faire des marées motrices, qui seront, comme à Arance et tout ça, productrices d'électricité. Je veux dire, voilà, on a la chance d'avoir des marées, des vagues qui ne coûtent rien. Pour la méthanisation, il faut de la matière, l'éolien, il faut du vent, et le soleil, il faut du solaire, il faut du soleil. Donc, à un moment, voilà. Par contre, moi, j'ai quand même... ils ont découvert qu'on pouvait faire plein de choses chez nous pour créer des ressources. Moi, je ne veux pas qu'on produise pour que les gens urbains consomment. J'ai dit à un moment donné, nous, on va défigurer tous nos territoires pour emmener l'électricité dans nos villes autour. Je trouve qu'il serait aussi judicieux d'obliger à mettre des panneaux photovoltaïques sur des immeubles, que ce soit à Bordeaux ou dans d'autres grandes villes, comme on fait des réserves d'eau ou autre chose. Il faut que chacun donne de soi. Nous, on peut faire, bien sûr, de la production, mais il faut que les gens puissent rester habiter chez nous. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on ait des boulangeries, des restaurants, de la population, des écoles, qu'on ne ferme pas tout. Voilà, il faut qu'on puisse vivre. Donc, il faut faire ça avec méthode. Par contre, je suis un peu étonnée que M. Béchu dise qu'on a fait un travail époustouflant. S'il a besoin d'un coup de main, on est prêt, les maires ruraux, à lui donner.
Juste par rapport à ce que tu as dit, je pense que c'est important aussi de rappeler que la campagne, ce n'est pas fait que pour faire des champs d'éoliens. Il faut quand même nourrir les populations. Et si on fait des champs d'éoliens à la place des champs de blé, on aura dans quelques temps quelques surprises pour nourrir les populations.
Surtout qu'on ne peut plus couper les bois.
Il y a ça aussi, mais il y a exactement la chose qui est demandée à l'État, c'est que, bien sûr, il faut faire des éoliennes, il faut faire du photovoltaïque ou tout ce qu'on voudra en énergie renouvelable. Mais ce qu'ils oublient de dire aussi, que dans nos campagnes, on a besoin de respecter le pacte républicain. Et on a aussi besoin de boulangers, on a besoin des écoles, on a besoin des médecins et on a besoin des artisans et commerçants. Ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Donc il n'y a pas que les éoliennes. C'est... Aujourd'hui, ils se rendent compte que 88% du territoire est rural et que les éoliennes enfin, les énergies renouvelables, elles ne se feront pas sur la place des quinquennats. Qu'on à Bordeaux ou au Champ de Mars à Paris, mais qu'elles se feront sur nos territoires. Et ça, c'est notre point fort, et on le revendique. Parce que, quelque part, on veut assumer ça, et on va l'assumer à travers toutes les propositions qu'on a faites, justement, dans le grand atelier de la transition écologique. Alors, bien sûr, il y a aussi une chose qui me paraît super importante, c'est les défis de l'eau. Parce que l'eau, on se rend compte aujourd'hui que c'est très, très important. Donc, parce que ce réchauffement climatique, il implique la fonte des glaciers, l'augmentation de l'évaporation. Donc, avec des périodes de sécheresse prolongées, avec des inondations plus fréquentes, ce qui met en péril les ressources en eau douce. Et ça, c'est important. Et ça, c'est dû aussi par rapport à l'urbanisation. Donc, comment on fait? Et puis la diminution des recharges de nappes phréatiques, comment on fait? Les inondations urbaines de plus en plus fréquentes, comment on fait? Les pénuries d'eau, comment on fait? Voilà. C'est vrai que c'est un vaste sujet qu'on a discuté aussi dans cette transition écologique. Et il va falloir y réfléchir sérieusement parce qu'on est de plus en plus impacté.
Je pense aussi qu'il va falloir passer par une obligation. Une obligation, par exemple, pour toutes les maisons neuves, de mettre quelques panneaux photovoltaïques pour la consommation, comme ça se fait, d'eau chaude ou une partie du chauffage, même pas la totalité, puis des réserves d'eau. Parce qu'après tout, l'eau qui tombe dans nos gouttières, elles peuvent très bien remplir des réservoirs pour les sanitaires ou pour arroser le jardin. Mais il va falloir que ça devienne une obligation.
Et que personne en profite, parce que là, on voit des bandits qui s'installent un peu partout. On l'a vu dernièrement avec l'histoire des punaises, où vous avez, normalement, il y a à peu près pour 800-900 euros, et on a des devis à 4 000, 5 000 euros.
Des voyous, t'en as partout.
Hein, oui, mais en fait, c'est peut-être pas des voyous, parce que ce sont des gens qui profitent de la situation économique pour essayer de gagner de l'argent, c'est sûr, mais c'est vrai que... ce qui est important à dire, c'est que le réchauffement climatique, il ne joue pas que sur le climat. On le voit bien à travers ces fameuses punaises. Ça va devenir un problème pour les villes, c'est sûr. Mais à la campagne aussi, parce que moi, je le vois, j'habite à la campagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas envahi de punaises, pas de punaises de lit, mais je suis carrément envahi de punaises, les autres, les volantes. Mais c'est désagréable quand on en a un peu trop, voilà. C'est comme ça. Et le réchauffement climatique amène d'autres sujets. Et c'est vrai qu'il va falloir vraiment réfléchir à ça, parce que ça risque de devenir catastrophique.
Brigitte, un dernier petit mot.
J'ai souvenir quand même que les punaises et les araignées rentrent tous les ans à peu près à la même époque. T'es un rural, donc...
Il y en a beaucoup,
ouais. Bah écoute, oui, ça doit dépendre de... Mais bon, je n'en trouve pas plus que les années précédentes.
Ouais. Écoute, si tu veux les accueillir dans ton lit,
non,
je vais te les envoyer.
Non, pas les punaises de lit, merci.
Elle préfère peut-être les moustiques.
J'ai pas de moustiques non plus, parce que moi, j'ai la chance d'avoir des chauves-souris. Mmh. Et donc, je n'ai pas de moustiques. Eh ben voilà. Donc, on est bien d'habiter la campagne, voilà.
Bon, ben, je vous remercie à tous les deux. Je vous souhaite une bonne journée et puis à tous nos auditeurs aussi de passer une bonne journée et à bientôt. Merci.
Au revoir.